Quand tu étais enfant, rêvais-tu de faire ce métier? Avais-tu ton propre potager? Qui t'a donné envie de faire ce métier?
Alors moi, je ne suis pas issu du milieu agricole. Mes parents habitaient à Villeurbanne. C'est la ville qui est à côté de Lyon. Donc on était en ville. J'avais pas de potager. J'étais vraiment un enfant urbain. Mais mes grands-parents, qui étaient aussi de la ville, hein, par contre, avaient une maison à Haute-Rivoire. C'est un village dans les monts du Lyonnais, pas très loin d'ici, à une demi-heure d'ici. Et c'est là que j'ai pris goût à faire le jardin, parce que mon grand-père faisait son jardin potager. Donc, ils allaient tous les week-ends dans leur maison pour faire, pour s'oxygéner. Et moi, je les suivais et c'est là que j'ai découvert le potager. Mais très franchement, jusqu'à l'âge de 18 ans, je ne pensais pas du tout m'orienter sur l'agriculture. C'est quand j'ai passé mon bac et où il a fallu après que je m'oriente sur des études supérieures que j'ai réfléchi réellement à ce qui me plaisait. Et j'avais envie de travailler avec le vivant dans les sciences naturelles. On va dire au départ, je me suis plutôt orienté vers les sciences naturelles, vers le vivant. Et par contre, j'avais pas envie de travailler avec les animaux. Donc du coup, je me suis orienté plutôt sur le vivant, mais au niveau des plantes. Et j'ai fait une école d'agriculture à ce moment-là.
As-tu déjà fait un autre travail? Si oui, à quel âge as-tu commencé ton métier de maraîcher?
Alors oui, effectivement, j'ai fait d'abord d'autres travails parce que j'ai terminé mes études agricoles, j'avais 26 ans. J'avais 24 ans et ensuite j'ai travaillé pendant 4 ans pour l'Institut National de Recherche Agronomique, l'INRAE qu'on appelle maintenant, et j'ai travaillé sur les insectes qui attaquaient les plantes. Et mon travail c'était d'essayer de trouver et de tester d'autres insectes qui mangeaient les insectes qui attaquaient les plantes. J'ai travaillé 4 ans là-bas et ensuite j'ai travaillé 4 ans, voire même 5, dans une station de démonstration et d'expérimentation horticole qui s'appelle le Râteau, qui est à Brinda. J'ai travaillé 5 ans là-bas comme technicien aussi pour... l'objectif c'était de montrer des techniques nouvelles aux agriculteurs de la région, montrer ce qui pouvait être fait, les nouveautés, etc. Et au bout de ces 5 ans, je me suis installé d'abord comme horticulteur. Un horticulteur, c'est quelqu'un qui fait pousser des fleurs. Donc voilà, je faisais des plantes en pot et des plantes fleuries. Et en 2008, je me suis installé comme maraîcher à Chaponne.
Travaillez-vous en équipe ou en famille?
Alors moi, je ne travaille pas en famille. Par contre, effectivement, on est une équipe, on est même une assez grande équipe, hein, quand même, parce que j'ai deux associés qui travaillent avec moi et on a trois salariés aussi. Donc, on est six à travailler sur l'exploitation. L'exploitation, elle n'est pas très très grande pourtant. Elle fait 7 hectares, ça fait 70 000 mètres carrés. Et sur ces 7 hectares, il y en a 3 hectares et demi qui sont dédiés au maraîchage. L'autre surface, il y a un hectare qui est dédié aux légumes secs et 2 hectares qui sont dédiés à faire de l'engrais, ce qu'on appelle de l'engrais vert. On fait pousser des plantes qu'on ne récolte pas et qu'on enfouit dans le sol pour enrichir le sol pour les cultures légumières de l'année d'après.
Comment tu gagnes de l'argent en hiver?
Ah, alors en fait, nous on travaille toute l'année. Il y a des périodes qui sont plus intenses que d'autres. Mais vous mangez des légumes toute l'année, donc nous on vend tout au détail, c'est-à-dire on vend pas à des grossistes, on vend tout à des particuliers et on les livre toute l'année. Donc il y a certains légumes en hiver qu'on a récoltés à l'automne et qu'on conserve dans des chambres froides ou des chambres spéciales qui permettent de bien les conserver pendant plusieurs mois et on les vend au fur et à mesure pendant tout l'hiver. Et vous avez certains légumes qui ne poussent qu'en hiver. Est-ce que vous avez en tête un légume qu'on trouve surtout en hiver?
Non.
Aïe, 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 non, pas la tomate, hein, justement pas.
Ouais. Les poires.
Les poires, c'est des produits qu'on trouve à l'automne, les poires. On les ramasse à l'automne, mais on, effectivement, et après on les conserve en chambre froide pour les vendre en hiver.
Les pommes ?
Les pommes, c'est pareil, on les ramasse à l'automne et effectivement, on va les vendre pendant tout l'hiver parce qu'on les garde en chambre froide.
Les champignons ?
Je suis pas trop spécialisé en champignons, mais effectivement, c'est des produits qu'on trouve plutôt l'hiver. Mais moi, j'en fais pas sur l'exploitation.
Les kakis ?
Kakis. C'est un fruit. Il me semble effectivement qu'on le ramasse une fois qu'il commence à geler. Donc, effectivement, ça va être fin d'automne, début d'hiver. Et moi, je pensais à une sorte de salade qu'on trouve beaucoup en période hivernale.
La mâche.
Voilà, la mâche, typiquement, c'est un légume qui ne pousse que quand il fait frais. Ça pousse à l'automne et pendant tout l'hiver. Au printemps, ça monte très très vite à fleurs. Et après, du coup, on n'en trouve plus dans nos serres chez nous, parce que c'est plus la saison de la mâche. Donc on va travailler beaucoup avec la saison. Mais donc, vous voyez, on travaille toute l'année.
Est-ce que ton travail est difficile ?
J'ai un travail qui est passionnant, mais effectivement, c'est peut-être... Je ne sais pas si on peut le qualifier de difficile, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il demande beaucoup de temps et il demande quand même de la force physique. Ce n'est pas un métier où on va rester assis devant un bureau ou devant un ordinateur. On est dehors à tous les temps. Parfois il fait beau, mais parfois il pleut, parfois il neige, il y a du vent. Parfois il fait trop chaud, mais comme aujourd'hui, on est très bien dehors. Donc il y a aussi des bons moments. Mais il y a des moments qui sont difficiles, effectivement, soit par les conditions météo, soit par le travail physique important que cela demande. Après, on est de plus en plus aidé par des machines quand même, qui du coup simplifient le travail physique et l'évitent un petit peu.
Combien de temps travailles-tu par jour ?
En moyenne, je travaille 8 heures par jour, on va dire. Mais il y a des jours où on va travailler beaucoup plus longtemps et d'autres jours où on va travailler moins. Et surtout, il y a des périodes de l'année où on va travailler plus et des périodes où on va travailler un petit peu moins. Par contre, comme on est quand même une grande équipe, on s'est organisé pour pouvoir prendre des vacances. Pour ne pas avoir à travailler trop souvent le week-end, on ne travaille jamais le dimanche. Le samedi de temps en temps quand même, mais jamais le dimanche. Et on essaye de prendre 4 à 5 semaines de congés par an chacun.
Tes légumes sont-ils biologiques ?
Alors oui, effectivement, toute l'exploitation est certifiée en agriculture biologique. Mais là, c'est moi qui vais vous poser la question. Pour vous, c'est quoi un agriculteur en agriculture biologique? Dis-moi.
C'est quelqu'un qui ne met pas de produits chimiques s'il y a des insectes?
Alors, on ne met pas de produits chimiques de synthèse, parce qu'on a droit de mettre des produits chimiques naturels. Moi, je fais bien la distinction, parce que tout est chimie, hein, en fait. Hein. On dit comme ça, on fait un raccourci, on dit on n'a pas le droit de mettre de produits chimiques. Ben, si... on a le droit de mettre certains produits qui sont issus de la nature. Donc on peut, par exemple, prendre des roches, les broyer très finement, et ces roches, les mettre sur nos cultures. C'est un produit, entre guillemets, chimique, mais naturel. Donc les produits chimiques naturels, on a le droit. Les produits chimiques qui ont été créés, entre guillemets, par l'industrie humaine, ça, on n'a pas le droit.
Je ne travaille pas en plein centre-ville parce que après l'air il est pollué. On travaille plus dans la campagne. Un peu.
Alors, ce n'est pas un critère de la certification. On pourrait très bien imaginer une exploitation en plein centre-ville et qui soit agréée et certifiée en agriculture biologique. Il y a deux choses qu'on ne maîtrise pas dans l'agriculture biologique, c'est l'air et l'eau. Donc effectivement, si on est dans un environnement pollué, on peut se dire que c'est pas super top pour l'exploitation. Mais c'est pas parce qu'il sera dans un air un peu pollué qu'il n'aura pas le droit à avoir une homologation bio. Pareil, l'eau qu'on utilise, on ne vérifie pas si dans cette eau, il y a ou pas des produits qui sont contraires à l'agriculture biologique. Ça ne fait pas partie de la certification. Donc, c'est à l'agriculteur de faire attention que son eau ne soit pas polluée. Mais on peut utiliser n'importe quelle eau sans qu'on ait une certification sur l'eau, comme quoi elle est exempte de produits chimiques industriels.
Que la chaleur, elle reste, que ça ne gèle pas.
C'est pas l'objectif principal, parce que tu mets quelque chose, la paille par exemple, c'est clair. C'est jaune clair. Si tu le mets sur le sol, les rayons lumineux, ils n'atteignent pas le sol, ils restent au niveau de la paille et même ils sont renvoyés par la paille et on a plutôt tendance à réduire le réchauffement du sol. Contrairement à ce paillage-là qui est noir, qui lui effectivement va réchauffer un peu le sol. Mais c'est pas l'objectif principal du paillage.
Ça empêche les mauvaises herbes.
Voilà. Ça empêche les mauvaises herbes de pousser. Ça, c'est le premier objectif.
Ça sert aussi quand t'arroses, ça sert à pas trop arroser.
Ouais, ça évite que ça s'évapore. On arrose, ça pénètre bien dans le sol, et ensuite, ça évite que l'air assèche le sol. Ça évite l'évapotranspiration. Effectivement, c'est les deux objectifs du paillage. Herbes, tu allais me le dire peut-être ?
À arroser ?
Voilà. Ils servent à arroser. C'est ce qu'on appelle un arrosage au goutte à goutte. Ces petits tuyaux, ils sont percés. Ils ont des petits trous tous les 30 cm avec un petit système qui permet d'envoyer de l'eau tout doucement. Et c'est ce qu'on appelle le goutte à goutte. Par rapport, vous avez, là, si vous vous tournez, vous voyez qu'en haut, il y a des tuyaux aussi. Il y a des tuyaux et tous les 2 mètres, vous avez un asperceur. Donc ça sert aussi à arroser, c'est une autre technique d'arrosage, c'est la technique par aspersion, on va recréer de la pluie par en haut. Mais je privilégie la technique du goutte à goutte, surtout pour toutes les plantes qu'on va faire pousser sous nos serres en été, parce que c'est une technique qui économise de l'eau. Et comme je n'ai que l'étang pour arroser les serres, si je vide mon étang, je n'ai plus rien pour arroser. Donc du coup, il faut que j'économise l'eau de manière à ce que l'étang, si jamais il y a de la sécheresse, il me fasse tout l'été. C'est pour ça que toutes nos cultures en été sont au goutte à goutte.
Quelle plante cultives-tu le plus dans tes serres ?
Ah, voilà une question qui est compliquée parce que dans les serres, c'est peut-être la tomate que je cultive le plus. Parce que c'est un légume qui est très demandé. Très attendu par mes clients, qui demande beaucoup de chaleur, donc on est obligé de faire sous serre. De la tomate faite à l'extérieur chez nous, c'est pas très rentable économiquement, donc on est obligé de la faire sous serre. Donc oui, c'est quand même la tomate que je cultive le plus sous la serre.
Combien de sortes de légumes cultives-tu ?
Je cultive entre 60 et 65 légumes différents chaque année, sur l'ensemble de la période de l'année. Alors après, il y a certains légumes, par exemple la ciboulette, j'en cultive un tout petit peu, mais je considère que c'est une sorte de légume. Donc si on rajoute toutes les sortes de légumes différentes que je fais, ça fait 65. Mais on va dire qu'il y en a 30 qui sont principaux. Voilà. Et sur ces 30, il y en a 10 qui correspondent à la moitié de mon revenu. La tomate, la courgette, l'aubergine, la pomme de terre, la courge, la carotte, le poireau. Il en manque 3 là. Mais là comme ça, on va dire la salade.
Utilises-tu des machines ?
Alors oui, j'en ai parlé tout à l'heure, effectivement. J'utilise des machines pour simplifier un petit peu le travail. Pour qu'il soit plus rapide et économiquement plus viable. Alors j'utilise des machines principalement pour travailler le sol et aussi des machines pour récolter les légumes qui poussent dans le sol et qui sont physiquement compliqués à arracher, comme les carottes, les navets, les oignons, voilà.
Est-ce que tes serres se sont déjà déchirées à cause du vent ?
Oui, malheureusement, plusieurs fois. Les serres, elles sont données résister jusqu'à 80 km/h de vent. Si elles s'arrachent ou si elles s'abîment avant 80 km/h, souvent l'assurance ne marche pas, parce qu'ils vont considérer qu'elles ont été mal construites. À partir de 80 km/h, les assurances fonctionnent si on est assuré contre les dégâts climatiques. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Une fois en 2010, donc 2 ans après mon installation, il y a eu une tempête qui s'appelle Xynthia, qui avait 140 km/h de vent. Et toutes les serres ont été pliées. Vous voyez les structures de serres que vous avez là, le fer qui est arrondi, eh ben c'était tout détruit, tout couché au sol, c'était tout à mettre à la poubelle.
Même les plantes en dessous.
Les plantes en dessous, on a réussi, c'était des épinards à l'époque, parce que c'était au mois de février, on a réussi à sauver les épinards, à les récolter, à les commercialiser, mais toutes les structures de serre, c'était tout foutu. C'était tout abîmé, on a été obligé de tout démonter, de tout jeter. Et ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir le plastique qui se déchire, juste le plastique. Alors quand c'est juste le plastique, finalement, on se dit que c'est pas très grave par rapport à quand c'est l'ensemble de la structure. En plus, souvent le plastique il se déchire quand il commence à être vieux. Et parfois c'est même plus intéressant que le plastique se déchire, parce qu'en 2010, quand Xynthia est passé, 140 km/h de vent, le problème c'est que le plastique il était neuf. Ça faisait que 2 ans que je m'étais installé. Et justement, le plastique, il ne s'est pas arraché.
Ah.
Donc, du coup, le vent a appuyé sur le plastique et ça a écrasé toutes les serres. Et c'est le fer qui a cassé au lieu que ce soit le plastique. Donc, parfois, on se dit, on a perdu une serre, on a perdu le plastique d'une serre. Mais heureusement que le plastique a cassé, parce que comme ça, ce n'est pas la serre qui est cassée,
Eh
c'est
oui.
juste le plastique.
Quand tes légumes sont pourris ou abîmés, que fais-tu avec?
Alors, s'ils sont vraiment pourris, mes légumes, je les jette, hein, je les mets au compost. S'ils sont juste un peu abîmés, ou que je n'arrive pas à les vendre, parce que ça arrive aussi, moi j'ai beaucoup de clients qui au mois d'août partent en vacances. Et au mois d'août, c'est la période où j'ai le plus de légumes. Donc, du coup, pour pas avoir à jeter et pour pas les perdre, tous les légumes abîmés ou que je ne vends pas, je vais les couper en morceaux, les congeler. Et en hiver, quand j'ai un peu moins de travail dans les serres, eh ben, je vais les transformer en soupe, en coulis de tomates, en caviar d'aubergine, voilà. Et je vais les transformer dans un laboratoire qu'on possède en commun avec une vingtaine d'autres agriculteurs et qu'on loue chacun notre tour. Et on va transformer nos fruits ou nos légumes dans ce laboratoire.
Comment tu tes légumes et si tu voyages dans le monde?
Alors, mes légumes ne voyagent pas dans le monde. Moi, je vends tout dans un rayon de 30 km autour de mon exploitation. Voilà, mes légumes, c'est 30 km. Passé 30 km, on ne trouve plus mes légumes. Voilà. Et
Local.
je les commercialise dans un magasin de producteurs qui est à Sainte-Foy-lès-Lyon. Alors, un magasin de producteurs, c'est un magasin en fait où il n'y a que des agriculteurs. On est tous patrons de ce magasin et on va apporter nos produits et les vendre en commun. Donc, il y a un producteur de viande, un producteur de fromage, un producteur de vin, un producteur de pain, un producteur de légumes, un producteur de fruits, etc., etc., etc. Et on va retrouver tous nos produits dans le même magasin. Je les vends aussi à l'AMAP à Chaponneau. L'AMAP, c'est une association de consommateurs qui s'engage à acheter le travail, les produits de l'agriculteur pour une durée de quelques mois. Donc à Chaponneau, c'est 6 mois. Donc les personnes s'engagent à acheter nos légumes pendant 6 mois. Et chaque semaine, je vais livrer un panier de légumes à tous les gens qui se sont engagés à m'acheter des légumes.
Merci.
Et puis, je les commercialise aussi un petit peu. Dans des magasins indépendants comme des chaînes Biocoop ou La Vie Claire. Mais c'est voilà, toute petite partie de ma production qui part dans ces magasins. J'essaye toujours le plus possible de vendre en direct.
Quelle surface de terre tu cultives ? As-tu d'autres terres ?
Alors, en surface, j'en ai parlé tout à l'heure, 7 hectares qui correspond à 70 000 m2, 3 hectares et demi en maraîchage, 1 hectare en légumes secs. Ça peut être de la lentille, cette année ça va être plutôt du haricot sec, et 2 hectares et demi en engrais vert, en plantes que je fais pousser et que je coupe, que j'incorpore dans le sol et qui va servir d'engrais pour mes cultures maraîchères de l'année d'après. Donc j'ai d'autres terrains, ils sont tous sur chaponneau et j'ai juste un terrain qui est plus éloigné dans le village où j'habite, qui est Pesnay, à une trentaine de kilomètres d'ici, où dessus je fais quelques arbres fruitiers et mon jeune plant de légumes.
Est-ce que l'étang t'appartient ? Comment l'utilises-tu ?
L'étang ne m'appartient pas, il appartient à monsieur et madame Boyer, à qui appartient aussi le terrain sur lequel on se trouve. Moi, j'ai juste les serres qui m'appartiennent, mais le terrain et l'étang ne m'appartiennent pas, je les loue. Et l'étang, je m'en sers pour arroser toutes mes serres qui sont ici et qui sont à Combala, là où on va aller maintenant. Cet étang, il récupère toutes les eaux de pluie du bassin versant ici. Le bassin versant, c'est les pentes qui sont autour de l'étang. Il récupère aussi les eaux de pluie qui sont au-dessus, il y a un lotissement au-dessus, avec du coup plein de surfaces, de toitures, de rues, etc. Ouais. Toutes les eaux de ruissellement du lotissement tombent dans un premier bassin, il y a de la décantation qui se fait, puis après ça tombe dans le mer. Je récupère aussi toutes les eaux de la route qui est ici. Pour vous dire qu'il est très important de ne rien jeter de sale sur votre parking ou sur la route, parce que l'eau de pluie après se retrouve la plupart du temps à servir à arroser des cultures. Si vous faites votre vidange sur votre parking et que l'huile vous la jetez au caniveau parce que c'est plus facile que de l'amener à la déchetterie, il faut savoir que cette huile, il y a de fortes chances que je la retrouve moi après dans mon eau. Et cette eau sert à faire pousser les légumes que vous allez manger. Donc du coup, si vous voulez manger des bons légumes, faites attention à ce que vous jetez dans la nature.